Fehezoko ny asa fampianarana.
Fehezoko ny asa fampianarana.
Fehezoko ny asa fampianarana.
Fandaharana avokarin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
Natao hanampianareo mpampianatra taona voalohany ka hatramin'ny taona fahadimy.
Chers enseignants, bonjour et bienvenue dans cette émission pédagogique radio-diffusée. Le contenu de la présente émission a été préparé par M. Narmaïf. Aujourd'hui, notre émission concerne la spécificité des disciplines scientifiques. Et à la fin de la séance, vous serez en mesure d'identifier ces spécificités à travers vos pratiques enseignantes de tous les jours, puis d'en tirer profit afin d'améliorer vos méthodes d'enseignement. Notre émission sera divisée en deux parties. En première partie, les spécificités selon le contenu, et en deuxième partie, les spécificités selon la démarche d'enseignement-apprentissage. Pour commencer, on va vous donner un court instant pour vous mettre à l'aise et nous reviendrons tout de suite après pour commencer l'émission. À très vite alors. Bon, j'espère que vous êtes tous prêts. Passons à l'essentiel du cours. Les disciplines littéraires et scientifiques sont parmi les disciplines que nous, les enseignants, enseignons tous les jours. Parlons un tout petit peu des disciplines littéraires. Ils emploient une approche communicative pour enseigner les composantes lecture, écriture et communication orale. Les apprenants sont amenés à forger leur identité culturelle, qui est une compétence transversale. Ce ne sont pas les mêmes spécificités pour les disciplines scientifiques. Intéressons-nous plus particulièrement aux sciences fondamentales. Les disciplines scientifiques fondamentales se distinguent des autres par deux points. Le contenu et la démarche. C'est à partir de ces deux points que nous allons structurer l'émission d'aujourd'hui. Quelles sont donc les spécificités des disciplines scientifiques selon le contenu? Selon le contenu, on distingue les sciences exactes et les sciences expérimentales. Les sciences exactes et les sciences expérimentales. Parlons d'abord des sciences exactes. Les sciences exactes sont aussi appelées sciences formelles ou sciences logico-formelles. Les sciences exactes explorent de façon déductive des concepts théoriques selon les règles de formation et de démonstration. Ces disciplines n'ont pas la nécessité de décrire le monde réel et se basent ainsi sur des conceptions et des mondes abstraits. Voici quelques disciplines appartenant à cette catégorie. Les mathématiques, la logique et l'informatique théorique. Les mathématiques, la logique et l'informatique théorique sont donc des sciences exactes. Parlons ensuite des sciences expérimentales. Les sciences expérimentales sont aussi appelées sciences de la nature. Les sciences expérimentales étudient le fonctionnement du monde naturel, à savoir des notions telles que la vie, la matière ou l'univers. Ces sciences recourent à la démarche scientifique pour sélectionner les modèles les plus pertinents pour décrire la réalité. Les sciences expérimentales adoptent, à l'inverse des sciences exactes, une méthode empirique. Les sciences expérimentales sont habituellement divisées en deux ensembles, les sciences de la vie et de la Terre et les sciences physiques et chimiques. Les sciences de la vie et de la Terre et les sciences physiques et chimiques sont des sciences expérimentales. Voilà en ce qui concerne les spécificités selon le contenu. Passons à présent à la deuxième partie de l'émission, qui concerne les spécificités selon les démarches. Quelles sont alors les démarches spécifiques aux disciplines scientifiques? Les démarches d'enseignement-apprentissage scientifique sont nombreuses. Ils correspondent essentiellement aux façons de faire dans un contexte de résolution de problèmes en sciences. Ces démarches ne doivent pas être mises en œuvre isolément, mais dans des situations d'apprentissage et d'évaluation qui font appel à plusieurs d'entre elles. Elles ne sont pas linéaires et supposent un va-et-vient entre les diverses étapes du processus d'investigation. Leur utilisation cohérente et leur articulation constituent une manifestation de compétences. La première démarche scientifique que nous allons présenter est la démarche expérimentale OERIC. C'est une abréviation dont la signification de chaque lettre est comme suit. O pour observation, H pour hypothèse, E pour expérimentation, R pour résultat, I pour interprétation et C pour conclusion. Je reprends. Observation, hypothèse, expérimentation, résultat, interprétation et conclusion. Cette démarche comporte 6 étapes. La première étape est l'observation. La situation problème est analysée et des questions sont posées. La deuxième étape est la formulation d'hypothèses. C'est une proposition que l'on pose qui peut être vraie ou fausse et qu'on soumet à la vérification de l'expérience. La troisième étape est l'expérience. Durant cette étape, les matériels ou outils sont préparés et l'expérience est réalisée suivant un protocole. La quatrième étape est l'obtention des résultats. Durant cette étape, les fins sont constatées et les résultats de l'expérience sont communiqués sous forme de texte, de graphique ou de schéma. La cinquième étape est l'interprétation des résultats. Durant cette étape, les données reçues sont lues, traduites et expliquées. Et enfin, la sixième et dernière étape, qui est la conclusion. C'est l'étape finale où on tire une règle, une définition, une représentation que l'on peut appliquer dans d'autres situations similaires. Voilà en ce qui concerne l'approche OERIC. Présentons maintenant la démarche scientifique suivante, qui est la démarche d'investigation. Qu'est-ce que la démarche d'investigation? La démarche d'investigation possède des similitudes avec la démarche OERIC. Elle correspond à cette étape, sans que, cependant, l'ordre dans lequel ils se succèdent constitue une trame à adopter de manière linéaire. Un sujet d'étude peut être traité en plusieurs séances et le temps consacré à chacun des moments doit être adapté au projet pédagogique de l'enseignant. Première étape, l'introduction. L'enseignant sélectionne des situations de départ qui focalisent la curiosité des élèves et déclenchent leurs questions. L'enseignant présente aussi une situation problème concrète ou un phénomène et le partage à toute la classe. Deuxième étape de la démarche d'investigation, la situation problème. Les élèves s'approprient le problème et des éléments de solution émergent. Cela permet à l'enseignant de travailler sur les conceptions initiales des élèves. L'enseignant donc favorise l'appropriation par la classe du problème à résoudre, notamment par la confrontation de leurs éventuelles divergences. Le guidage par l'enseignant fait naître le questionnement chez les apprenants. Troisième étape, la formulation d'hypothèses. Les élèves ou les groupes d'élèves formulent des conjectures, des hypothèses, des protocoles possibles oralement ou en écrit. Ils communiquent à toute la classe des hypothèses et des éventuels protocoles expérimentaux proposés. Quatrième étape, la recherche ou l'investigation. L'investigation ou la résolution du problème est conduit par l'élève ou le groupe d'élèves. C'est un moment de débat interne au sein du groupe. Le groupe effectue la description et la réalisation de l'expérience par un schéma ou une description écrite, ainsi que le contrôle de l'isolement des paramètres et de leurs variations. Description et exploitation des méthodes et des résultats, recherche d'indices, d'éléments de justification et de preuve, confrontation avec les hypothèses formulées précédemment. Parfois, expérimenter n'est pas toujours possible. L'élève peut donc effectuer une recherche documentaire. Cinquième étape, l'échange argumenté. Chaque élève ou groupe d'élèves communique au sein de la classe les solutions qu'ils ont élaborées, les réponses qu'ils apportent, les résultats obtenus et les questions qui demeurent. Les propositions des différents groupes sont confrontées. L'enseignant organise un débat autour de leur validité. Il s'ensuit une recherche d'arguments et une élaboration collective de preuves. Sixième étape, la structuration. L'acquisition et la structuration des connaissances peuvent s'effectuer à l'oral, à l'écrit dans un cahier ou sous forme d'affichage pour être vu par toute la classe. Les élèves, avec l'aide de l'enseignant, mettent en évidence les nouveaux éléments de savoir, comme notion, la technique, la méthode, utilisés au cours de la résolution. L'enseignant veille à respecter les niveaux de formulation accessibles aux élèves. Sixième et dernière étape, la mobilisation. L'enseignant donne des exercices permettant d'automatiser certaines procédures, de maîtriser les formes d'expression liées aux connaissances travaillées, des formes langagières ou symboliques. L'enseignant pose de nouveaux problèmes qui permettent la mise en œuvre des connaissances acquises dans de nouveaux contextes. Et enfin, l'enseignant évalue les connaissances et les compétences méthodologiques des élèves. Voilà en ce qui concerne la démarche scientifique d'investigation. Présentons la démarche suivante, qui est la démarche de modélisation. La démarche de modélisation consiste à construire une représentation destinée à concrétiser une situation abstraite, difficilement accessible ou carrément invisible. Le modèle élaboré peut prendre diverses formes. Texte, dessin, formules mathématiques, équations chimiques, programmes informatiques ou maquettes. La démarche suivante est la démarche d'observation. La démarche d'observation repose déjà sur l'établissement d'un modèle théorique provenant de celui qui observe. L'observateur fait une relecture du monde physique en tenant compte de ses présupposés et des schémas conceptuels. À la lumière des informations recueillies, l'apprenant doit en arriver à une nouvelle compréhension des faits. La dernière démarche que nous avons présentée est la démarche empirique. La démarche empirique est une recherche de terrain sans manipulation de variables. Cette absence de manipulation n'enlève rien à sa validité méthodologique. Un sondage, par exemple, est une démarche empirique qui n'a rien d'aléatoire. Elle permet également de mettre au point des techniques et d'explorer des avenues possibles pour d'autres recherches. Qu'est-ce que nous devons retenir de tout cela? Alors, écoutez bien. Premier point. Les disciplines scientifiques se distinguent des autres disciplines par deux points, le contenu et la démarche. Le contenu à enseigner et la démarche d'enseignement-apprentissage. Deuxième point, selon le contenu, on distingue les sciences exactes et les sciences expérimentales. Troisième point, les démarches d'enseignement-apprentissage scientifique sont nombreuses. Par exemple, la démarche OERIC, la démarche d'investigation, il y a aussi la démarche d'observation, la démarche de modélisation et la démarche empirique. Bon, il n'y a plus rien à ajouter. Il ne nous reste plus qu'à évaluer si la leçon a été bien assimilée. Passons à l'étape suivante. Nous allons continuer avec l'évaluation maintenant. Répondez aux questions suivantes. Première question. À quelle catégorie de disciplines scientifiques appartiennent les sciences de la vie et de la terre? Les sciences de la vie et de la terre appartiennent aux sciences expérimentales. Deuxième question. Quelle est l'étape commune à la démarche expérimentale, au ERIC et à la démarche d'investigation? Quelle est l'étape commune à la démarche au ERIC et à la démarche d'investigation? L'étape commune entre les deux démarches est la formulation d'hypothèses. Troisième et dernière activité. Dans une classe, un enseignant de mathématiques établit la formule du théorème de Pythagore. Quelle démarche scientifique l'enseignant a-t-il adoptée? L'enseignant a adopté la démarche de modélisation, puisque les formules mathématiques sont des modèles. chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivie. Sur ce, bon courage, au revoir et à bientôt.
Na raino teo.
Feesiko ny asa fampianarana.
Feesiko ny asa fampianarana.
Feesiko ny asa fampianarana.
Fandarana vokarin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena.
Natao hanampiana ireo mpampianatra taona voalohany hatramin'ny taona fahadimy.